La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ils étaient unis comme les deux doigts de la main, Edmond et Jules Goncourt, les deux frères terribles de la littérature française du 19e. Ils auraient même voulu s'appeler Jules Edmond, paraît-il, tant leur personnalité fusionnait, à tel point que certains ont même jugé leur relation quasi pathologique. Ils ont été des romanciers, mais aussi de grands amateurs d'art, ainsi que les auteurs d'un journal célèbre, comme nous allons le voir ici au cours d'une série en 4 épisodes. Et le dernier de ces épisodes nous servira à explorer deux aspects en particulier de leur œuvre, celui de leurs écrits sur l'art et de leur style littéraire qu'ils qualifiaient d'artiste. Ce sera avec Bernard Vouilloux en première partie jeudi. Et puis nous nous pencherons sur le rapport aux femmes de ces deux grands misogynes qui comptent pourtant de nombreux et intéressants personnages féminins dans leurs romans, comme nous le dira toujours au cours de cette même émission Barbara Giraud. Durant l'épisode 3, nous serons en compagnie de Pierre Dufieff pour parler de la correspondance des Goncourt avec Flaubert notamment et de la question du naturalisme. Et puis enfin, au cours de l'épisode 2, demain, Jean-Louis Cabanès et Éléonore Reversi analyseront pour nous le fameux journal donc des Goncourt. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de ces deux frères, nous sommes en compagnie de Pierre Ménard, qui n'est pas le héros de Borges. Dans sa nouvelle Pierre Ménard, auteur du Quichotte, personnage qui voulait réécrire à l'identique le grand livre de Cervantes. Mais il est l'auteur, lui, du livre Les Infréquentables Frères Goncourt, publié en janvier dernier aux éditions Talendier avec une préface de l'historien Michel Vinoc. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. Elle commence par un extrait du journal de Jules Goncourt, lu par Michel Bouquet.
Il y a la lymphe du 19e siècle en moi, la vie de pensée toute spirituelle. Et je ne sais pas si, vivant dans un autre siècle en Allemagne, par exemple, au 16e siècle, je n'aurais pas été dans un milieu plus propre à ma nature, un milieu de force et de matérialité, mangeant du sanglier, buvant, baisant. Il y a un fond de porc en moi, qui ne me semble pas arriver à son développement. Je n'ai pas les mêmes aspirations que l'autre de nous. Lui, le fond, s'il n'était que ce qu'il est, ce serait le ménage, le rêve bourgeois, l'idéal de communion d'existence avec une femme sentimentale. Moi, je suis un matériel mélancolique. Lui, un passionné tendre et mélancolique.
Bonjour à vous, Pierre Ménard.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous à distance pour nous aider à nous approcher de ces deux infréquentables que sont qu'étaient les frères Goncourt. Ce sont de drôles d'oiseaux, deux personnalités tout à fait hors du commun, des excentriques. Est-ce que vous iriez jusque-là, Pierre Ménard ?
Ah oui, je pense qu'on peut aller jusque-là. Deux êtres très différents, et on l'a vu avec l'extrait que vous venez de donner, qui montre à quel point ces êtres sortent un peu de l'ordinaire, et en particulier par leur personnalité, puisque, comme vous l'avez dit, ils forment un couple, ils rêvent de se faire appeler Jules Edmond, donc ils se font passer pour des frères jumeaux, voire des frères siamois, et ils insistent tout le temps sur ces deux corps qui auraient une seule âme. Et en même temps, comme on le voit dans l'extrait, ce sont deux personnages qui sont totalement opposés. On a d'un côté un Edmond qui est grand, qui est mélancolique, assez fort, et de l'autre, Jules, qui est beaucoup plus jeune, très différent, qui est blond alors que l'autre est brun, qui est frêle alors que l'autre est fort, qui est, lui, assez enjoué, toujours drôle, Ce qui fait que même les domestiques, d'ailleurs, quand ils sont petits, disent « Monsieur Jules vient ce soir à la maison, on va pouvoir s'amuser ». Et donc deux êtres totalement différents, mais qui forment en même temps une seule entité. Et c'est l'un des paradoxes de ces frères Goncourt.
Est-ce qu'ils ne sont pas quand même tous les deux un peu mélancoliques, Jules y compris, chacun à leur manière bien sûr?
Ah, ils sont mélancoliques, ils sont oui, c'est l'un de leurs paradoxes aussi. Donc Jules est très enjoué, Edmond est très caustique, il peut avoir des mots très drôles et très durs. C'est Ferdinand Bach qui disait qu'il avait toujours l'air de mâchonner un bonbon empoisonné pour le cracher à la figure de quelqu'un. Et puis oui, une tendance à la mélancolie, à la rêverie, qu'on sent notamment par leur centre d'intérêt, puisque l'essentiel de leur œuvre sera consacré au XVIIIe siècle, donc à un temps qui est complètement révolu. Un XVIIIe siècle qu'ils rêvent, et puis aussi au Japon, donc un ailleurs aussi lointain, inaccessible.
Mais oui, parce qu'il faut dire qu'ils sont tournés vers le passé. On peut même dire que ce sont des réactionnaires, Pierre Ménard.
Ah oui, deux réactionnaires, ce qui explique peut-être aussi l'oubli un peu qui les frappe aujourd'hui, mais donc ils sont contre tout. C'est ce qu'on dit souvent pour les réactionnaires, c'est être pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Donc ils sont contre l'éducation des enfants. Par exemple, ils voient que leur libraire envoie son fils au collège Stanislas, et donc ils sont révoltés, ils disent « mais il va devenir un petit bureaucrate », donc totalement opposé à ça. Bon, le libraire en question s'appelle France, et le fils qui est reproche de devoir aller à l'école, ce sera Anatole France, prix Nobel de littérature. Il parle d'un jour, pour plaisanter, où il n'y aura plus de domestiques, en disant « vous verrez, il faudra faire un jour son lit soi-même ». Ils sont opposés au téléphone, alors ça ce sera Edmond qui est un instrument du diable, contre les pyjamas qui sont des chemises de prostitution, contre la bicyclette, contre les bonapartistes, la démocratie, contre à peu près tout ce qu'on peut imaginer.
On pourrait rajouter
donc,
aussi
assez réactionnaire.
On pourrait rajouter aussi contre les femmes, contre les homosexuels, contre aussi tout ce qui constitue une espèce d'avancée sociale ou morale.
Ah oui, contre tout, et aussi, il faut pas le passer sous silence, mais extrêmement antisémite, à un point vraiment où ça devient presque maladif. Mais oui, il y a ce côté-là, mais qui est, là encore une fois, assez paradoxal, puisque, assez réactionnaire évidemment, le 18e dont il rêve, d'ailleurs, c'est pas le 18e siècle du siècle des Lumières, de Voltaire, de Rousseau, celui de la Révolution, mais c'est vraiment le 18e siècle d'avant, c'est-à-dire une époque qu'ils aiment justement parce qu'elle est hiérarchisée socialement, parce qu'on est dans une société d'ordre, c'est ça qui les intéresse. Et dans leur roman, paradoxalement, ils vont s'intéresser essentiellement au petit peuple, au domestique, à tout ce que la littérature tient un peu caché. Donc il y a ce paradoxe-là de se revendiquer complètement aristocrate, alors que même ça est sujet à caution, et de l'autre côté, de s'intéresser beaucoup au peuple, et même d'écrire dans leur journal des pages où ils se plaignent de la manière dont, en province, les gens osent traiter leur domestique.
Oui, parce qu'ils sont un peu plus complexes qu'on ne le dit en général. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Pierre Ménard, vous y êtes intéressé à ces deux personnages atrabiliaires. Vous leur pardonnez leurs défauts. Est-ce que vous appréciez finalement, après avoir écrit cette biographie d'eux, leur compagnie?
C'est une bonne question. On est content d'être débarrassé d'eux. Et en même temps, c'est ça, je pense qu'il faut accepter de passer outre la première impression qu'ils font, où ils sont absolument détestables contre les enfants, les femmes, tout ce qui peut exister. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi une posture. Ils jouent aux vieux misanthropes, aux vieux réactionnaires. Et quand on regarde tous les amis qu'ils ont eus, parce qu'ils en ont eu beaucoup, et ils ont connu absolument tout le monde, ils ont connu Gautier, Flaubert, Renan, on voit que tous ces gens-là leur ont parlé malgré tout, qu'ils les ont appréciés, et qu'à l'enterrement de Jules, et plus encore à celui d'Edmond, les gens ont pleuré sincèrement leur mort. On se dit que malgré tout, ils pouvaient pas être aussi horribles qu'ils le disaient. Et c'est ça sans doute qui est intéressant chez eux, c'est que la plupart des gens, dans leurs mémoires, dans leurs journaux, vont chercher à se grandir, à se montrer défenseurs de la veuve et de l'orphelin, du trône et de l'autel, et qu'eux vont faire systématiquement l'inverse, se peindre comme d'affreux misanthropes, misogynes, réactionnaires, et donc ils vont jouer de ça. Et donc il faut, je pense, passer un peu au-delà de ça.
Ouais. Alors vous dites surtout que ce sont des auteurs d'une œuvre foisonnante, d'où émerge une fabuleuse perspective sur la vie littéraire et artistique, mais aussi mondaine, populaire, vous le disiez à l'instant, et politique du 19e siècle. Est-ce qu'on peut dire que ces deux hérétiques en littérature, comme les a qualifiés Sainte-Beuve, c'étaient aussi des historiens, et que finalement ce journal, il peut nous servir comme un document d'histoire?
Oui, tout à fait. Alors les Goncourt, effectivement, ont eu d'abord une carrière d'historien avant de se faire connaître pour le journal. Ils ont écrit notamment sur la Révolution française et des volumes qui ne sont pas justement des volumes consacrés aux grands hommes, aux grands traités, aux grandes batailles, mais une histoire du quotidien. Et l'idée leur est venue en rédigeant justement ces ouvrages d'histoire, qui sont plutôt bien écrits, assez caustiques, assez drôles, avec cette volonté justement de s'éloigner des grands champs déjà très labourés et de s'orienter vers la vie du quotidien, vers les anonymes qui font l'histoire aussi, et de faire la même chose pour leur époque. Et donc de fournir avec ce journal un matériau pour les historiens à venir, et donc pour comprendre cette époque. Alors, avec un objectif quand même dans ce journal, qui est justement de s'éloigner de tout ce qu'on pourrait retrouver après dans les livres d'histoire, et de montrer, c'est eux qui le disent, l'humanité comme elle se livre en robe de chambre. En robe de chambre, ça veut dire justement s'éloigner des grands portraits, des portraits que pourraient faire des grands peintres, etc. Et de montrer vraiment les gens dans leur caractère personnel. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont rapporter des anecdotes sur Louis-Philippe qui passe devant une boutique et qui dit que c'est joli, mais ça coûte 10 francs. Le penseur Charcot qui va se raser le crâne pour avoir un front plus grand et apparaître comme un penseur. Puis des petits commentaires très méchants, par exemple Camille Doucet qui dit un soir d'ivresse, j'aurais fait un excellent domestique, et les Goncourt qui rapportent le propos disent pourquoi j'aurais fait. Et donc toutes ces petites touches qui permettent justement de montrer l'humanité dans ce qu'elle a de plus trivial, et ça fournit vraiment une très belle galerie de portraits de tous ces gens qu'ils ont connus et qui sont souvent les plus grands artistes, les plus grands penseurs de l'époque.
Alors, on va rentrer un petit peu dans cette biographie avec vous, mais avant cela, une toute dernière question un petit peu introductive. Est-ce qu'on s'est étonné que vous, qui êtes un auteur très jeune, vous soyez intéressé à ces deux personnages? Est-ce qu'on vous a demandé mais pourquoi, au fond, passer autant de temps à étudier les frères Goncourt, ces deux réactionnaires?
Oui, beaucoup. Puis on m'a demandé si ça avait pas déteint sur moi. Alors j'espère que non. Mais oui, c'est vrai que vraiment, ce sont des gens qui rebutent au départ. Et j'avoue que quand je me suis lancé dans l'aventure, j'avais pas encore tous ces a priori contre eux. Mais au début, ça a été vraiment très difficile à passer ce cap. Cela dit, je pense que il faut vraiment encore une fois passer au-delà de ça et se rendre compte que ce sont deux personnes qui sont vraiment passionnantes. Passionnantes parce qu'ils ont touché absolument à tout. Ils ont été historiens, artistes aussi. Ils ont fait revivre l'école du XVIIIe siècle en peinture. Ils ont été extrêmement novateurs aussi dans leurs œuvres, avec ce côté où ils étaient à la fois réactionnaires politiquement, mais dans tout ce qui était artistique quand même, à l'avant-garde, et toutes ces choses-là qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était aussi leur journal, qui est vraiment très savoureux, et qui permet de découvrir le 19e siècle avec deux yeux. Justement, le fait d'avoir deux personnes qui sont complètement en décalage avec la société permet d'avoir un éclairage qui est assez drôle sur cette époque, et de découvrir une période qui est très complexe, où les régimes changent à toute allure, où la société se transforme très vite, et d'avoir deux personnes qui sont complètement en marge de cette société, et qui vont pouvoir faire tous ces commentaires et permettre, à travers leurs yeux, à travers leurs pas, de découvrir cette époque. Donc, je me suis beaucoup amusé aussi en le faisant.
Voilà, et ce journal, on peut le lire en plusieurs volumes aux éditions Honoré Champion, sous la direction de Jean-Louis Cabanès, qu'on recevra demain, et aux éditions Robert Laffont, sous la direction de Robert Kopp. Alors, il faut commencer, si vous le voulez bien, Pierre Ménard, par évoquer la famille Goncourt. D'où vient ce nom, d'ailleurs, extrêmement célèbre à cause du prix, évidemment, mais qui a son histoire propre, bien entendu.
Oui, alors les Goncourt, c'est une famille comme il en existe pas mal en France. En fait, c'est un creuset de la société du 19e siècle. Edmond naît en 1822, Jules naîtra en 1830, et si on regarde les témoignages de la fin de la vie d'Edmond de Goncourt, donc toute fin du 19e siècle, on fera passer la famille de Goncourt pour une des plus grandes familles de Lorraine, l'équivalente au Montmorency et à toutes les grandes familles de l'Ancien Régime. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Le nom de Goncourt vient de la terre de Goncourt, qui a été achetée par la famille Huot, l'arrière-grand-père d'Edmond, 3 ans avant la Révolution. Donc c'est une famille qui est à la frontière entre la bourgeoisie et la noblesse. Et si on creuse un peu d'ailleurs, on se rend compte qu'au XVIIe siècle, la famille était d'abord des laboureurs qui se sont enrichis et puis qui petit à petit ont gravi les échelons en passant notamment par des fonctions juridiques. Et on trouve de tout dans cette famille, c'est-à-dire qu'on trouve aussi bien des gens qui ont été proches de la cour avec leur oncle, le marquis de Villedeuil qui était ministre de Louis XVI, leur grand-père qui, au moment où naît Edmond, se décrit comme défenseur du trône et de sa majesté, et puis quand on creuse un peu, on se rend compte que pendant la Révolution, il était député du tiers-état et qu'il était assez proche des Jacobins, donc assez à gauche. Il s'est depuis bien repris. Edmond raconte que quand ses domestiques s'énervent, par exemple, il les jette dans la pièce d'eau glacée de son château, et puis quand ils ressortent du lac, d'un seul coup, ils sont très calmes et tout à fait disposés à lui obéir. Le père d'Edmond, lui, est un bonapartiste pur jus. Il a participé très jeune aux guerres de l'Empire. Il a eu un comportement assez héroïque. Il va mourir assez jeune aussi. Il est laissé orphelin.
Il est blessé pendant la campagne de Russie et il va beaucoup souffrir justement dans sa chair de ces batailles.
C'est ça, il est blessé une première fois en Italie, ou alors il tente de résister à un escadron d'Autrichiens, bon, qui lui rappelle avec des coups de sabre sur la tête qu'il devrait se taire, et il gît dans une mare de sang, et il en gardera des traces, et Edmond raconte que jusqu'à la fin de sa vie, il prendra les mains de ses enfants et il les mettra dans les cicatrices, comme ça qu'il avait sur le crâne, et puis effectivement il recevra aussi une balle pendant la campagne de Russie, donc un grand blessé. Et qui vivra toujours lui aussi un peu en marge de la société, qui tentera de se faire réintégrer, mais avec la Restauration, être bonapartiste comme il l'était n'était pas forcément très bien vu, et donc il restera fidèle à ses principes jusqu'au bout. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve encore dans cette famille ? On trouve aussi des enrichis de la dernière heure, comme les cousins Labille, qui sont riches à millions, qui se sont énormément enrichis pendant la Révolution, et puis qui sont d'une avarice sordide, et donc les Goncourt racontent que quand on leur offre des fleurs, par exemple, le père Labille récupère l'emballage des fleurs pour se faire des papiers de cigarettes.
Donc c'est une famille un peu composite, mais on sent bien que Jules et Edmond, eux, se sentent des aristocrates et pas du tout des bourgeois.
Oui, alors ça, ils le revendiquent tout le temps. Parfois, ils font des concessions, ils disent qu'ils savent qu'ils sont ce qu'ils appellent des nobles de dessous, que voilà, c'est lié à cet achat de terre, et puis parfois ils l'oublient un peu. En tout cas, pour eux, le côté aristocrate, c'est aussi lié à un état d'esprit, c'est pas seulement la naissance, c'est le fait de se sentir à part, au-dessus de la société, d'être artiste, et donc de se vivre comme fait d'une naissance différente, d'une essence et pas d'une naissance différente de celle des autres. Mais en tout cas, oui, ils cultiveront toujours ce côté réactionnaire, aristocrate, en plein milieu d'une société bourgeoise et en opposition frontale aux valeurs émergentes de cette société, qui est le travail, auquel eux revendiquent plutôt l'oisiveté, qui leur plaît beaucoup. Ils ne travailleront d'ailleurs jamais, du moins travailler en tant que salarié. Edmond, dès que sa mère mourra, va démissionner et après ils travailleront évidemment sur leurs livres, mais ce sera tout.
Alors il faut rappeler donc, vous l'avez déjà dit mais c'est important de le souligner, qu'il y a une très grande différence d'âge entre Edmond qui naît en 1822, c'est le frère aîné, et Jules qui naît en 1830. On aurait pu penser justement que ça aurait pu les séparer, faire d'eux des étrangers l'un à l'autre, et c'est finalement le contraire qui se passe.
Oui, et c'est toute l'ambiguïté aussi de leur relation, où ils se revendiquent à la fois comme frères jumeaux alors qu'ils ont beaucoup d'écart. Et puis Edmond sera à la fois le frère et puis aussi le père un peu de Jules, puisque avec ses 8 ans d'écart, donc le père meurt assez jeune, et puis leur mère va mourir quand Jules a 17 ans. Et au moment de mourir, elle prend la main d'Edmond, la met dans celle de Jules et recommande à Edmond de veiller sur son frère. Et jusqu'au bout, effectivement, Edmond aura ce côté paternel envers son frère, et y compris dans les derniers instants, quand Jules, à cause de la maladie, deviendra fou et retombera dans l'enfance.
Il y a aussi une petite sœur, Lily, qui a un destin tragique, parce qu'elle meurt du choléra. Edmond va le raconter, ça d'ailleurs, dans leur journal, en 1884.
Oui, alors il y a eu même une deuxième petite sœur, mais qui est morte très très rapidement. Et cette petite sœur, oui, Lily, en 1832, donc un peu comme aujourd'hui, Paris est très agité. On voit des gens qui meurent partout, Chateaubriand se promène dans les rues. Et il raconte qu'il voit les gens qui lèvent leur verre à la santé du choléra et puis qui s'effondrent juste après. Bon, c'est sans doute un peu exagéré, mais c'est Chateaubriand. Et puis Chateaubriand se demande qu'est-ce que c'est que ce choléra ? Est-ce que ce sont des insectes qu'on avale ? Des esprits ? Est-ce que c'est le vent ? Personne ne sait, mais en tout cas, les cadavres continuent jour après jour à augmenter. On dit que les corbillards commencent à refuser des clients. Et à ce moment-là, les Goncourt décident de retirer Edmond de la pension dans lesquels il est. Il fuit en fiacre Paris, et puis dans le fiacre, Edmond le raconte, il s'aperçoit que donc sa petite sœur commence à devenir très pâle, et puis avant même d'être arrivée à destination, elle est morte du choléra.
Il faudrait citer encore, pour terminer un peu ce portrait de famille, la tante Nephtalie de Courmont, dont Edmond se souviendra comme d'une femme d'élite.
Oui, Nephtalie de Courmont, qui est la tante qui compte beaucoup pour les concours, et en particulier pour Edmond, qui reçoit beaucoup, qui a ce qui s'appelle une folie du XVIIIe siècle à Ménilmontant, qui est une sorte de petit château qui est plein d'œuvres d'art, et c'est elle qui va initier Edmond, justement, qui va lui transmettre ce goût de l'antiquité, des antiquités, des œuvres d'art, et donc il raconte que tous les dimanches, quand il vient chez elle, elle l'emmène après voir les boutiques d'antiquités, et que il revient toujours en portant les trouvailles du jour, comme si c'était le Saint-Sacrement à travers Paris. Et donc avec elle, il s'initie justement aux collections. Et cette tante, oui, joue un grand rôle pour lui. Et ils leur consacreront même un roman. Le dernier roman qu'ils écriront sera consacré à cette tante.
Et oui, la tante Nephtalie qui sera donc la professeure de beauté qui inspire le dernier roman intitulé « Madame Jeversey ».
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On peut peut-être dire quelques mots aussi, Pierre Ménard, de l'éducation des deux frères qui passent par Henri IV. Il y a un professeur important qui s'appelle Charles Caboche qui va être important pour Edmond. Pour quelle raison en particulier ?
Oui, ce professeur déjà croit en Edmond, et puis il dit à Edmond que lui, un jour, il fera du bruit plus tard, sans doute littérairement, et il va l'initier à un auteur, à Saint-Simon, qui va vraiment durablement marquer Edmond de Goncourt. Il dira même que pour lui, il y a trois livres de référence, il y a la Bible, les Latins, et puis Saint-Simon. Et
mais par contre, il n'y a pas les Grecs.
On voit vraiment une parenté. Il n'y a pas les Grecs, non. Alors ça.
Les Grecs anciens, je parle évidemment.
Non. Et donc dans ce journal, on voit vraiment dans la manière dont il tourne les portraits qu'il y a une parenté avec Saint-Simon. Et d'ailleurs, dans son testament, il appellera Saint-Simon son maître. Et donc oui, grâce à ce professeur, il s'initie à Saint-Simon, qui aura vraiment une grande influence sur lui.
Edmond, c'est un élève studieux, mais c'est aussi un élève qui est capable de faire le mur, d'aller au bal de l'opéra la nuit. À quoi ils ressemblent en fait ces deux jeunes adultes?
On a d'un côté Edmond, effectivement, qui est assez timide, assez renfrogné, mais qui, effectivement, la nuit, quand sa mère dort, part visiblement voir quelques filles et participe à des soirées comme ça, et revient au petit matin, couvert par la bonne qui lui ouvre discrètement la porte. Donc, une vie rangée en apparence, et puis de l'autre côté, un peu plus joyeuse, qui ne veut bien le montrer. Edmond va quand même s'engager dans des études de droit, alors qu'il révulse absolument. À chaque fois qu'il obtient une promotion, il raconte, c'est vraiment le drame de sa vie, il raconte qu'il est au bord du suicide, et il l'écrit, qu'il songe vraiment plusieurs fois sérieusement à se suicider. Et il trouve une échappatoire dans le dessin. Donc, à côté de sa vie de juriste, puis de comptable, il dessine beaucoup. Et de l'autre côté, Jules, lui, est l'élève parfait. Sa mère est absolument est extrêmement fière de lui. Elle l'exhibe partout. Il est très drôle. Elle le trouve très beau. Et en fait, derrière cette apparence très sage, c'est quelqu'un qui est très dissipé, et donc plutôt que d'aller à l'école, il va souvent chez sa maîtresse alors qu'il a 16-17 ans. Il sèche les cours aussi de plus en plus, il écrit des tragédies comme ça dans les cafés, et puis à l'heure de la sortie de l'école, eh bien, il revient chez lui comme s'il avait passé la journée à l'école.
Je comprends peut-être aujourd'hui ce que doit être l'amour, s'il existe. Ôter le côté charnel, le rapprochement du sexe, c'est ce qui existe entre nous, qui fait que, quand l'un n'est pas avec l'autre, il y a dépareillement, comme dans un couple d'oiseaux, qui ne peuvent vivre qu'à deux. l'un séparé de l'autre, il y a une moitié de nous-mêmes qui nous manque. Nous n'avons plus que des demi-sensations, une demi-vie. Nous sommes décomplétés, comme un livre en deux volumes dont le premier est perdu. Voilà ce que je pense être l'amour, le décomplétage et le dépareillement dans l'absence. Et encore, l'amour, est-ce cela? Ne faut-il pas ajouter à la fusion de deux cœurs, la fusion de deux esprits? Ce mariage complet de tout l'être moral peut être unique, qui est particulier. Je flattais l'amour en le comparant à notre fraternité.
D'Edmond de Goncourt, lu par Denis Manuel. Alors il y a quelque chose, Pierre Ménard, un événement tragique qui va encore les souder un peu plus, c'est la mort de la mère des deux le 5 septembre 1848. Et au-delà de la souffrance qu'ils ressentent, ça va aussi être pour eux comme une nouvelle ère et peut-être même une ère de liberté. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent vraiment eux-mêmes, c'est en tout cas le sentiment que l'on a.
Oui, la mort de leur mère est vraiment un choc pour eux. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure où elle recommande Edmond, son petit frère Jules, et en même temps effectivement c'est ça qui va leur permettre de devenir eux-mêmes. Dès la mort de sa mère, Edmond démissionne. Jules dit qu'il va passer son bac, il le passe, mais ils prennent tous les deux une grande décision. Ils ne feront jamais carrière. Donc Jules a 17 ans, Edmond a 8 ans de plus, ils décident qu'ils ne travailleront pas. Leur famille a beaucoup de mal à comprendre pourquoi une telle décision, alors qu'un avenir très confortable aurait pu les attendre. Mais eux se vivent vraiment comme des artistes. Bon, il faut dire au passage que leur mère, en mourant, leur laisse 10 000 livres de rente, ce qui est pas une grande fortune, mais ce qui leur permet de vivre tout à fait confortablement, sans avoir besoin de travailler. Et donc, grâce à ce petit pécule, ils pourront consacrer leur vie à l'art. Effectivement, pour l'instant, ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire, donc ils entreprennent un voyage à travers la France qui va les mener en Algérie. Ils se vivent plutôt comme des artistes à l'époque, comme des peintres, donc ils ont un crayon à la main, ils dessinent, ils peignent. Et puis, petit à petit, en Algérie notamment, dans leur carnet de dessin, ils commencent à noter des petites choses, ils ont une correspondance aussi. Et puis, c'est ce que racontera Edmond, ce carnet, à force de noter toutes les choses un peu amusantes qu'ils croisent au fur et à mesure de leur promenade et de leur pérégrination, va les arracher à la peinture et les orienter vers la littérature. Et c'est ça qui va leur donner l'idée de se lancer dans une carrière littéraire.
Est-ce que vous avez un jugement sur leur dessin, sur leur peinture? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont perdu aussi, ou qu'on a perdu, nous, quelque chose dans ce changement de trajectoire de la carrière des Goncourt?
Non, je pense qu'ils ont fait le bon choix. À la fin de la vie de Jules, donc en 1870, Jules va mourir à moitié fou à cause de la syphilis. Edmond de Goncourt attribuera ça justement au fait qu'il se soit lancé dans la littérature qui lui demandait énormément d'efforts, notamment pour tout le travail des phrases. Et il soutient que c'est cette tension constante du cerveau qui l'a rendu complètement fou. Et que si Jules avait continué à se lancer dans une voie artistique, dans la peinture, il serait devenu un des plus grands peintres de son temps. Bon, quand on voit leur gravure, ils ont notamment fait beaucoup d'eau forte. Jules a indéniablement plus de talent qu'Edmond. Quand on regarde ça, ils sont extrêmement forts dans tout ce qui est copie. Donc Jules fait de très très bonnes copies. Et en revanche, quand il se lance lui-même dans des œuvres d'imagination en peinture et en gravure, c'est nettement moins bon. C'est-à-dire que c'est très convenu. Et donc je pense que en peinture, il aurait été un second couteau et il ne serait pas du tout passé, à mon avis, à la postérité.
Alors ils habitent tous les deux au 43 de la rue Saint-Georges. Ils ont comme voisines ou comme voisins des prostituées. Certains finissent donc dans le lit de Jules. C'est peut-être ce qui fait qu'il attrapera la syphilis qui va l'emporter 20 ans plus tard. En tout cas, il y a déjà cette espèce de milieu de la prostitution qui va être un thème récurrent de leur œuvre, Pierre Ménard.
Oui. Alors, ils racontent, ils habitent donc dans le quartier de la Nouvelle-Athènes et près de l'église Notre-Dame de Lorette, ce qui a donné le nom justement aux Lorettes, qui sont les femmes qui arrivent de province et puis qui se trouvent des protecteurs plus ou moins réguliers. Ils en ont deux dans leur immeuble. Une qui raconte que quand il pleut, elle ne peut pas travailler, donc il vient réclamer de l'argent. Et puis l'autre qui s'appelle la Délion, qui est beaucoup plus ambitieuse. Et alors, dès qu'ils ont le dos tourné, elle gratte à la porte de chez les Goncourt et puis la servante ouvre à cette demi-mondaine qui vient juste regarder les victuailles, une manière de se nourrir sans avoir à réclamer de la nourriture, juste par la vue. Et effectivement, ça va hanter leur œuvre. Leur premier succès de librairie, c'est La Lorette. C'est une monographie qui est consacrée à ces femmes de leur quartier et qui est plutôt comique, qui aura un peu de succès. Et puis ensuite, il y aura leur grand roman, Germiné la Certeux, qui là sera beaucoup plus sur le thème de la prostitution. Et ce thème-là apparaîtra par ailleurs effectivement en filigrane dans beaucoup de leurs romans et puis tout au long de leur journal aussi.
Mais avant ce premier succès, qui sera un petit peu leur seul succès, parce qu'ils vont quand même se plaindre toujours de ne pas avoir d'acheteurs et de lecteurs de leurs livres en très grand nombre. Mais avant cela, il y a un premier roman qui s'appelle En 18 et qui est publié en décembre 1851. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Pierre Ménard, sur ce premier roman ?
Ah oui, alors coup dur pour eux. Effectivement, en revenant d'Algérie, ils ont donc décidé de passer à l'écriture. Alors ils écrivent beaucoup, d'abord des tragédies, en vers, en prose, des vaudevilles aussi, et puis à chaque fois, c'est refusé plus ou moins violemment, mais on a les lettres et effectivement souvent c'est assez méchant. Donc toutes leurs tragédies, toutes leurs chances de réussir au théâtre sont complètement annulées par toutes ces lettres. Et donc les Goncourt décident de s'orienter vers un autre genre qui est plutôt en vogue, qui est le roman. Et donc, il décide de publier ce roman en 18, trois petits points, point de suspension. Donc, un titre un peu cabalistique qui doit paraître en décembre 1851. Les Goncourt, vraiment, quand ils l'ont écrit, sont certains qu'ils vont connaître un grand succès, qu'on parlera d'eux à la suite de Hugo et de tous les grands romanciers d'alors. Et puis, ils se couchent tranquillement dans l'espérance, donc, de leur succès à venir. On vient les réveiller au milieu de la nuit et on leur dit, mon Dieu, c'est fait. Et ils disent, qu'est-ce qui est fait? Le coup d'État. Et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, donc 2 décembre 1851. Les Goncourt sont surpris et disent, et notre roman qui doit paraître aujourd'hui, et celui qui les réveille leur dit, un roman, mais la France se fiche pas mal des romans aujourd'hui. Donc les Goncourt sortent de chez eux, et puis alors ils racontent au milieu de tous les gens qui sont arrêtés par les soldats, des barricades, des émeutes, ce qui les intéresse c'est de trouver les affiches de leurs livres. Bon, évidemment, autant dire qu'il n'y en a pas, et ils sont extrêmement déçus, et ce livre va être un échec total, avec 64 exemplaires vendus, une critique positive néanmoins.
Ça montre assez bien.
Et, voilà. Et alors ils mettront ça.
Ça montre assez bien, pardonnez-moi, la façon dont ils s'intéressent assez peu finalement à l'histoire en train de se faire. Là, on bascule à ce moment-là dans le Second Empire, un régime qu'ils vont détester. Mais ce qui les intéresse profondément, c'est évidemment leur œuvre.
Ah oui, c'est eux. Et donc là, justement, ils mettent ça sur le compte du coup d'État. En réalité, si on regarde ce livre, 64 exemplaires, bon, le score est peut-être un peu mérité, il est absolument incompréhensible. Donc c'est une histoire d'amour entre un homme et deux femmes, avec une des deux qui est à moitié une espionne. Et dans ce livre, alors ils font parler des bûches, ils donnent des recettes de potage, des billets de Madame de Maintenon, donc il y a absolument tout et n'importe quoi. C'est assez difficilement compréhensible, et eux-mêmes le reconnaîtront, donc des années après, quand ils vont relire ce livre, ils vont voir qu'il est franchement mauvais, et donc ils le jetteront au feu. Tous les exemplaires qui leur restaient, ils les jetteront au feu. Donc oui, c'est un début en littérature difficile, le premier échec d'une longue série, mais qui permet effectivement de voir que ce qui les intéresse le plus, c'est quand même leur personne, et effectivement quel que soit l'événement, on le verra dans le journal, ça va toujours être rapporté à ce que eux peuvent en tirer ou en subir comme conséquence, et donc ils seront toujours partout à travers les événements de leur journal.
Pêle-mêle avec ses livres sont nos livres à nous, les exemplaires choisis de nos romans, de nos études d'histoire, tirés sur peau de velin, sur chine, sur papier de Hollande, et habillés comme des enfants qu'on aime, et signés d'un J et d'un E entrelacés, ciselés sur la tranche. Que je plains les lettrés qui ne sont pas sensibles à la séduction d'une reliure, dont l'œil n'est pas amusé par la bijouterie d'une dorure sur un maroquin, et qui n'éprouvent pas, en les repos paresseux de l'esprit, une certaine délectation physique à toucher de leurs doigts, à palper, à manier une de ces peaux du Levant si moelleusement assouplie. La reliure française a été de tout temps un art, dont les adeptes ont fait preuve d'une adresse charmante. Et c'est aujourd'hui peut-être le seul art industriel où se soit conservée la main-d'œuvre des choses exquises façonnées par les artisans artistes du XVIe siècle. Mais il faut le dire de suite, cet art ne supporte pas la médiocrité.
De la maison d'un artiste d'Edmond de Goncourt, lu par Françoise Lebrun. Cet art de la reliure ne supporte pas la médiocrité, dit-il, on n'entendait pas moins de la part d'un tel dandy, Pierre Ménard. C'est peut-être là qu'on comprend comment fusionnent chez eux l'art et la littérature, l'objet d'art et les idées. Finalement, il y a quelque chose de cohérent dans leur parcours qui va des arts plastiques jusqu'à la littérature et qu'on retrouve dans cette évocation de l'objet.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Goncourt se vivent vraiment comme des artistes, ce qui veut dire que effectivement, il y a une communion entre la littérature et entre tout ce qui est les arts graphiques. Et par exemple, l'extrait parlait de leurs reliures, ils vont systématiquement essayer d'adapter les reliures au thème du livre. Et par exemple, pour Salammbô, quand ils reçoivent le roman de Flaubert, ils vont le faire relier avec une reliure carthaginoise, c'est ce qu'il raconte, et qui donne l'apparence d'une peau humaine qui aurait été, comme si le livre avait été relié en peau humaine. Mais donc systématiquement, ils vont essayer d'adapter la reliure du livre au livre lui-même et dans leur sujet aussi. Donc il y aura beaucoup, toute une partie de leur œuvre qui est consacrée aux artistes du XVIIIe siècle. Et le style même, ils l'appellent style artiste. Ils ont une manière d'écrire qui se veut vraiment artistique et comme s'ils peignaient avec des mots.
Est-ce qu'on peut pas dire que finalement il ressemble au personnage de Des Esseintes dans le roman de Huysmans, à rebours, personnage qui est tout de même assez repoussant?
Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais effectivement, il y a quand même une parenté. Et d'ailleurs, Huysmans écrira à Edmond Goncourt que s'il a eu envie d'écrire, c'était justement grâce au Goncourt, c'était en lisant leur livre. Et le livre préféré de Des Esseintes, c'est La Faustin, qui est un des romans d'Edmond Goncourt.
Alors, ils vont se lancer aussi dans le journalisme avec leur cousin Pierre-Charles de Villedeuil. Tous les deux ou tous les trois, ils fondent un hebdomadaire qui s'appelle L'Éclair et dont le premier numéro sort en 1852. C'est important le journalisme parce que là, pour le coup, c'est tourné vers le monde. Alors évidemment, le monde des arts, mais tout de même, on se regarde un peu moins soi-même quand on fait du journalisme, enfin logiquement.
Logiquement, bon, ce qui ne sera pas le cas des Goncourt, mais effectivement, avec le journalisme, ils prennent leur envol. Alors c'est un journal qui reste assez confidentiel malgré tout. Ils disent il ne lui manque que des abonnés. Un jour, enfin, ils ont une abonnée, mais c'est la maîtresse de Villedeuil qui les ruinera d'ailleurs. Enfin, qui le ruinera. Mais donc, effectivement, assez peu de succès. Mais en revanche, ils se font vraiment la main avec ça. Ils vont faire des petits pastiches et puis des critiques de théâtre. Alors, des critiques de théâtre à la Goncourt. Donc, plutôt que de raconter la pièce qu'ils vont voir, ils vont parler du public, comment il est habillé, dire qu'il fait chaud dans la salle. Parfois, même, la pièce ne les inspire pas. Alors, plutôt que d'en rendre compte, ils partent à la campagne et puis ils vont raconter ce qu'ils ont fait à la campagne en parlant un tout petit peu de la pièce à côté quand même, et à ceux à quoi ils ont échappé. Donc un style qui est vraiment très très libre, qui leur vaut évidemment pas mal d'ennemis, mais ce seront les premiers d'une longue lignée. Et puis
qui leur vaut un procès aussi.
Le journalisme va quand même le journalisme va quand même se retourner contre eux, puisque un jour le couperet tombe et ils sont inculpés d'immoralité, d'atteinte à la moralité publique. Alors on leur reproche, en fait, c'est un moyen surtout de nuire au directeur du journal plus qu'à eux, puisque les frères Goncourt, bon, il y a peu de gens qui les considéraient comme de vraies menaces pour l'État. Mais enfin, ils ont eu l'indélicatesse de critiquer la maîtresse du cousin de Napoléon III, bon, ce qui n'était pas la meilleure idée. Et donc, effectivement, ils sont inculpés. Alors, ils vont tenter de se défendre. Ils trouvent un avocat, c'est ce qu'ils racontent, le plus nul qu'on puisse imaginer, en pensant qu'un ténor du barreau les grandirait trop. Et donc, il faut un avocat assez bête. Ils vont trouver la perle rare, qui effectivement va les défendre en racontant qu'ils sont servis depuis 20 ans par la même bonne. Et donc, grâce à ça, ils sont acquittés. Ils s'en sortent avec un blâme. Mais curieusement, Ça va marquer pour eux vraiment le coup d'arrêt du journalisme. C'est-à-dire qu'ils en ressortent avec une haine du régime impérial, une crainte très forte de la justice, et puis une haine des journalistes. Et ça, ça ne les quittera pas. Et ils écrivent par exemple « Qu'est-ce qu'un journal ?» La vulgarisation du torche-cul, où les journalistes ont remplacé les ordres mendiants. Et donc jusqu'à la fin de leur vie, ils auront vraiment une haine du journalisme.
La vulgarité, ça fait partie de leur style aussi, Pierre Ménard ?
Oui, ça, on est très frappé par ça. D'ailleurs, ce sont les inventeurs du mot scatologique et on comprend pourquoi, et ça revient tout le temps. Alors je pense que à travers ça, ils essaient de retrouver ce côté un peu 18e, un peu décadent, et donc le fait de parler crûment, ils sont comme l'aurait pu le faire la princesse Palatine. Il y a cette idée de ressusciter à partir de ce vocabulaire un peu grossier parfois et ces considérations très triviales l'esprit du 18e siècle.
Oui, ils ont inventé beaucoup de mots. Pas seulement le mot scatologique, ce sont de grands inventeurs de mots.
Oui, et bien ça rejoint leur style artiste en fait. Leur style artiste, c'est de se vivre comme des artistes totaux, donc en écrivant, ils sont aussi des peintres. Et ça va consister à faire épouser en fait à leur action, à leur livre, le mouvement de l'action. Donc une phrase va s'étendre en longueur si on décrit une action qui est lente, quitte à friser des redondances, à redire trois fois la même chose. Et leurs chapitres sont un peu comme des tableaux, ce sont vraiment des tableaux de mots. Et donc, ils vont décrire absolument tout dans la scène, comme un miniaturiste, tout, au point que ça vire à la manie parfois. Donc, pour raconter une scène en extérieur, au lieu d'évoquer la lune en juste un mot, ils vont consacrer trois pages à la lune. Et tout va être un peu comme ça, on va tout décrire. Et dans leur vocabulaire aussi, ça va se ressentir, il y aura cette volonté de forger une langue complètement à part. Et donc, ils vont dire que les hommes sont gracieuses, qu'une action est crocodilesque, parler du chutement d'une feuille d'arbre, murmurement, enfin de plein de mots qui n'existent pas comme ça. Ils vont inventer 800 néologismes, mais donc quelques-uns vont quand même passer dans la langue courante. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit américanisation, ce sont les Goncourt qui ont inventé le mot, ou foultitude, par exemple. Donc il y a toute une partie de leurs mots, beaucoup qui ont vieilli, et quelques-uns qui sont utilisés tous les jours.
Je me sens encore de la baie du XVIIIe siècle, et aussi un côté de perfidie ironique du XVIe siècle italien, avec pourtant l'horreur du sang, de la cruauté, du mal au corps, mais avec une pente à la méchanceté de l'esprit. Chez Edmond, au contraire, il y a presque de la bonasserie. Il est né en Lorraine, c'est un esprit germain. Nous découvrons cela pour la première fois. Moi, je suis un latin de Paris. Edmond se voit parfaitement militaire dans un autre siècle. Il se retrouve le sang lorrain, la non-déplaisance des coups et l'amour de la rêverie. Moi, je me vois plutôt dans des affaires de chapitre, des diplomaties de communauté, avec une grande vanité de rouer des hommes et des femmes pour moi-même, par le spectacle de l'ironie. Est-ce qu'il y aurait prédestination de l'aîné et du cadet naturel ? Comme elle fut sociale autrefois.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Je me sens encore du 18e siècle, écrivain. Écrivait donc dans son journal Jules Goncourt. C'est vrai qu'ils cherchent, à chaque fois que c'est possible, on l'a déjà dit un peu, Pierre Ménard, à réhabiliter leur cher 18e siècle. Est-ce qu'ils voudraient aussi réhabiliter l'Ancien Régime ?
Oui. Alors ce sont des contre-révolutionnaires patentés. Ce qui leur plaît donc dans le 18e siècle, c'est vraiment cet aspect féodal qui existait encore. Et ils vont faire plusieurs œuvres comme ça pour critiquer ce qui a apporté la Révolution, notamment un petit pamphlet qui s'appelle « La Révolution dans les mœurs » et qui va être vraiment une décharge contre la Révolution en montrant que la Révolution, c'est une révolte d'opérettes qui a été opérée par des gens qui puent des pieds, des portiers, des monstres froids, ça c'est ce qu'ils écrivent, et en disant qu'en fait la Révolution n'a libéré personne de ces chaînes, puisque avant on avait des grands seigneurs, certes, mais la hiérarchie était claire, et au 19e siècle, ce ne sont plus des grands seigneurs, en fait ce sont des grands banquiers, des capitaux, capitalistes qui tiennent les chaînes et tout le monde croit être libre et d'autant plus esclave qu'en fait la liberté est juste une liberté de façade et qu'elle n'existe pas. Et donc ils auront après la volonté de faire d'autres pamphlets contre la révolution et qui finalement ne verront pas le jour.
Oui, vous dites d'ailleurs que les Goncourt sont finalement en résistance et qu'ils gagnent l'armée des émigrés, alors pas l'armée des émigrés, des princes émigrés, mais celle des esthètes émigrés, parce qu'il y a cette idée que esthétiquement le 19e siècle va à volo.
Oui, et dans leurs œuvres, donc dans leurs romans, autant ils disséqueront la société contemporaine, mais dans leurs essais, ils vont vraiment s'attacher à faire revivre cette société du XVIIIe siècle, donc dans la vie de tous les jours, avec l'histoire de la société française sous la Révolution, puis sous le Directoire, et surtout beaucoup de monographies, donc des biographies de femmes du XVIIIe siècle, qui seront extrêmement, donc ça va être sur les maîtresses de Louis XV notamment, sur Marie-Antoinette, qui seront pour le coup très laudatives, quelle qu'ait été cette femme, elle est toujours spirituelle, belle, intelligente, raffinée. Et puis des monographies d'artistes aussi, ils vont essayer de faire revivre l'école française du XVIIIe siècle et donc en faisant revivre Watteau, Chardin et tous ces grands peintres.
Et Fragonard aussi, qui est une de leurs grandes références.
Oui, oui, oui.
Alors ils vont fréquenter des milieux littéraires distingués, des princesses, la princesse Mathilde par exemple, qui tient salon rue de Courcelles ou encore dans sa maison de Saint-Gratien. Il y a tout un côté vie parisienne aussi chez les Goncourt qui passent beaucoup de temps dans les salons.
Oui, alors c'est une reconnaissance un tout petit peu tardive, elle intervient, oui on peut se dater ça sans doute de la princesse Mathilde, 1862, qui est leur première grande invitation, et à partir de ça ils auront une vie effectivement très mondaine, où ils vont connaître dans le monde des arts absolument tout le monde, donc Théophile Gautier, ils vont être extrêmement proches de Flaubert, de Zola aussi, qui sera leur élève un moment, et puis toute une vie mondaine où ils vont fréquenter à travers la princesse Mathilde, un peu toutes les sommités du Second Empire, et puis ensuite toutes les sommités sous la Troisième République, dans divers salons. Et donc, c'est ce qui fait aussi que leur journal est intéressant, c'est qu'on, ils vont s'intéresser dans leurs romans aux milieux les plus simples, celui des domestiques, et dans leur journal aussi, ils vont raconter tout ce qu'ils voient, et donc tous ces grands personnages, avec beaucoup d'anecdotes assez amusantes.
Ils racontent aussi un petit peu leur voyage. Alors, ils voyagent pas tant que ça, hein. Il y a le voyage en Algérie dont vous avez parlé. En revanche, il y a un long voyage qui dure plusieurs mois, celui-là en Italie, en 1855. Mais alors évidemment, dès qu'ils sont partis, on a l'impression qu'ils voudraient rentrer, parce que les Goncourt, typiquement, ne se trouvent bien que là où ils ne sont pas.
Oui, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils voyagent, et donc quand ils sont à Paris, ils se plaignent du temps, qu'il y ait Mossad, etc. Et puis dès qu'ils voyagent, ils se disent qu'ils seraient quand même beaucoup mieux à Paris. Et ce qui est surprenant, c'est cette escapade en Italie qui les faisait rêver depuis des années. Pour eux, on a l'impression que c'est vraiment un chemin de croix. Et donc, ils se baladent à Rome, ils trouvent tout le monde stupide. Ils vont voir les tableaux dans les églises, ils vont voir les Michel-Ange, etc. Et à chaque fois, ils trouvent ça laid, beaucoup moins réussi que leurs dessins d'œuvres du XVIIIe siècle. Et donc, effectivement, pour eux, le seul endroit possible, c'est être ailleurs. C'est le seul endroit qui leur plaît.
Nous faisions notre promenade tous les matins au soleil dans une certaine allée du bois de Boulogne, où je ne repasse plus. Une promenade silencieuse, comme il s'en fait en ces moments de la vie, entre gens qui s'aiment et qui se cachent l'un à l'autre leurs tristes pensées fixes. Tout à coup, brusquement, mon frère s'arrêta et me dit « Ça ne fait rien, vois-tu. On nous niera tant qu'on voudra. Il faudra bien reconnaître un jour que nous avons fait Germini Lacerteux et que Germini Lacerteux est le livre type qui a servi de modèle à tout ce qui a été fabriqué depuis nous sous le nom de réalisme, naturalisme, etc. Et de. Maintenant, par les écrits, par la parole, par les achats, qui est-ce qui a imposé à la génération aux commodes d'acajou le goût de l'art et du mobilier du XVIIIe siècle? Où est celui qui osera dire que ce n'est pas nous? Et de deux. Enfin, cette description du salon parisien meublé de japonaiserie, publiée dans notre premier roman, dans notre roman d'An 18, paru en 1851. Oui, en 1851. Qu'on me montre les japonisants de ce temps-là. Et nos acquisitions de bronze et de lac de ces années chez Malinet et un peu plus tard chez Madame de Zoie. Et la découverte en 1860 à la porte chinoise du premier album japonais connu à Paris, connu au moins du monde des littérateurs et des peintres. Et les pages consacrées aux choses du Japon dans Manette Salomon, dans Idées et Sensations, ne font-ils pas de nous les premiers propagateurs de cet art en train, sans qu'on s'en doute, de révolutionner l'optique des peuples occidentaux? Et de trois. Or, la recherche du vrai en littérature, la résurrection de l'art du XVIIIe siècle, La victoire du japonisme, se sont, vois-tu, ajoutait-il, après un silence et avec un réveil de la vie intellectuelle dans l'œil, ce sont les trois grands mouvements littéraires et artistiques de la seconde moitié du 19e siècle. Et nous les aurons menés, ces trois mouvements, nous, pauvres, obscurs. Eh bien, quand on a fait cela, c'est vraiment difficile de n'être pas quelqu'un dans l'avenir.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec cet extrait de la préface à la première édition du roman Chéri. Alors qu'est-ce que c'est que cette vogue du japonisme, Pierre Ménard, et avez-vous le sentiment que, en effet, les Goncourt ont beaucoup fait pour la populariser ou tout simplement pour la faire connaître en France?
Alors oui, les Goncourt ont beaucoup fait pour ça. Maintenant, il s'arrange un peu avec la réalité. Dans l'extrait que vous venez de mettre, par exemple, où ils disent « qui osera contester que dès 1851 nous parlions des japonaiseries ?» Bah, en fait, tout le monde peut le contester, puisque si on ouvre l'édition originale de ce livre, qui était celui dont on parlait en 1800, on remarque qu'à l'époque, il parlait de chinoiserie, et que c'est dans la réédition qui a été faite bien plus tard que Edmond Goncourt a corrigé ça pour mettre des japonaiseries. Donc il s'est un peu attribué le premier rôle, comme il le fait aussi pour l'école française du 18e siècle. Il n'était évidemment pas le seul à s'intéresser au Japon. Il a été un des premiers, ça c'est vrai. Pas le seul, mais on a à l'époque Bing, on a Cernouchi, on a Guimet. Donc on a beaucoup d'autres japonisants qui contribuent à faire rayonner cet art japonais. Alors Edmond, c'est vrai, va tenter de le faire rayonner en faisant ce qu'il a fait pour l'école française du XVIIIe siècle, en consacrant des monographies aux artistes japonais du XVIIIe siècle. Et puis, comme il a des collections d'art français du XVIIIe siècle, il aura aussi beaucoup de collections d'objets d'art japonais du 18e et du 19e siècle, avec du bon, du très bon, et puis aussi du beaucoup moins bon, puisqu'en fait, son principal vendeur de japonaiserie profitait un peu de sa crédulité pour lui refourguer ce qui ne se vendait pas au Japon en les lui faisant passer pour des chefs-d'œuvre.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Pierre Ménard, parce que le fait qu'il change les chinoiseries en japonaiserie a posteriori montre ce qu'on entendait aussi dans l'extrait de cette préface, son l'obsession d'Edmond pour la postérité. En fait, il ne travaille quasiment que pour la postérité.
Eh oui, et ça, c'est vraiment un des traits les plus frappants d'Edmond de Goncourt, ce qui expliquera notamment le prix Goncourt et l'Académie Goncourt, une volonté de se survivre. Mais il y a chez lui cette volonté absolue qui tient vraiment presque de la pathologie de se survivre. La princesse Mathilde parfois essaie de le raisonner et elle dit, alors je cite, hein, elle lui dit « la postérité, à quoi bon quand on a fait que péter et roter dans sa vie ?» Donc c'est bon, il n'est pas convaincu visiblement par le propos. Et parfois il se met à pleurer en disant « une postérité de 10 000, de 20 000 ans, de 30 000 ans, de 100 000 ans, est-ce que ça me suffirait ?» Bon, il ne doute pas qu'il l'atteindra en tout cas, et puis il se met à pleurer en pensant qu'il y a d'autres mondes invités, qu'un jour la planète Terre va mourir, et donc avec la planète, le souvenir d'Edmond de Goncourt aussi. Et il s'emploie vraiment à mettre sa marque partout, donc par les romans, par le théâtre, et même sur ses collections d'art, en mettant partout son sigle, Edmond et Jules de Goncourt, sur tous les objets pour se survivre à travers eux aussi.
Bon, en tous les cas, ils sont très célèbres, en tous les cas encore aujourd'hui, ne serait-ce que à cause du prix Goncourt et puis de la station de métro à Paris. Ils sont moins évidemment célèbres pour leur roman. On peut peut-être dire un mot quand même de ce moment où ils deviennent peut-être véritablement romanciers. Enfin, ça c'est une question que je vous pose, mais on a l'impression que peut-être avec leur roman Les Hommes de Lettres, rebaptisé plus tard Charles de Mailly, il y a quelque chose qui se passe, qu'ils deviennent peut-être plus totalement romanciers. Est-ce que c'est votre avis aussi, Pierre Ménard?
Oui, effectivement, donc les Goncourt avaient, en plus de leur journal, étaient surtout historiens dans leurs premières années d'hommes de lettres, et puis il y a un déclic qui s'opère, ils se disent effectivement que le vrai homme de lettres n'est pas celui qui va répéter les faits du passé, qui ont déjà été dits par d'autres et qui seront redits après, mais celui qui va être historien du présent. Et historien du présent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le romancier va disséquer la société, comme le ferait un historien, et donc pour ça, il va travailler de manière sérieuse, comme un historien, en accumulant des documents, ce qu'ils appellent des documents humains. Et donc ça va être ce qu'ils notent tous les jours dans leur journal, les balourdises, les bévues des gens qu'ils croisent, et qu'on retrouve souvent dans leurs romans d'ailleurs. Et on voit des petites annotations, des petites croix qui, dans les passages qu'ils prélèvent comme ça dans leur journal. Des recherches aussi. Et par exemple pour Sœur Philomène, leur roman après celui des hommes de lettres, ils vont consacrer ce roman à l'hôpital, et donc aller faire des repérages dans les hôpitaux. Et donc il y a cette volonté donc d'aller plus loin que Balzac aussi, dans le réalisme, et de décrire tout ce qui est tenu à l'écart de la littérature. Donc les hommes de lettres, ça montre toutes les arrière-cuisines de la littérature. Sœur Philomène, ça va montrer l'hôpital qui d'habitude est vraiment juste esquissé en deux, trois phrases, comme dans Le Colonel Chabert. Eux vont en faire le thème central de leur roman, qui est un lieu absolument glauque à l'époque, très, très compliqué, ou un vrai mouroir, et donc ils vont consacrer un livre à ça. Puis La Bourgeoisie avec René Mauprin, cette volonté donc de disséquer la société, et puis le grand déclic, encore plus que Les Hommes de Lettres, qui va être Germini Lacerteux.
Alors évidemment, c'est toujours compliqué de savoir s'il faut parler des Goncourt ou seulement de Edmond de Goncourt, car Jules, malade, on l'a dit, de la syphilis, meurt assez tôt, à 40 ans, en juin 1870.
Le 13 juillet 1896, Edmond de Goncourt mourait chez son ami Alphonse Daudet à Champs-Rosay, où il était venu pour éclaircir un malentendu survenu à propos de sa future académie. Une congestion attrapée en sortant d'un bain trop chaud qu'il avait pris pour combattre une crise hépatique l'emporta en quelques heures. Il avait eu presque tout ce qu'il fallait pour être heureux, la fortune et le talent. Il lui a manqué le don, car le bonheur aussi est un don, comme le talent, comme le génie. Et ce don du bonheur, Edmond Goncourt en a manqué au suprême degré. Nerveux, inquiet, tourmenté, insatisfait, il a voulu survivre à la fois dans son académie et dans son œuvre. Son vœu suprême a été comblé. Malheureusement, le cher vieil homme n'est plus de ce monde pour jouir de la revanche qu'est pour sa mémoire l'institution si originale dont il a eu l'idée. En tout cas, sa vie reste un modèle de désintéressement et d'amour passionné du beau. À ce titre, il est assuré, quoi qu'il arrive, de ne pas périr tout entier. Aussi longtemps qu'il y aura une littérature et des écrivains, il sera considéré, avec Gustave Flaubert, comme le prototype de l'artiste qui n'aura vécu que pour son art.
Voilà la mort de Jules Goncourt en 1896, c'est-à-dire quand même 26 ans après la mort de son frère Jules, mais leur relation a été tellement forte que les textes que Edmond va écrire seul semblent encore rédigés par eux deux, Pierre Ménard.
Oui, notamment leur journal, où dans leur journal, même si c'est Edmond qui tient seul la plume, il va continuer à l'appeler le journal des frères Goncourt, alors que pendant 26 ans, effectivement, c'est bien Edmond qui tient la plume. Et dans leur roman, en tout cas au début, on sentira toujours l'influence de Jules. Il va travailler sur les notes qui ont été écrites par Jules pour ses premiers livres, et puis à partir d'un roman qui s'appelle Les frères Zemgano, Edmond va raconter sous la forme de la vie de deux trapéziste, le destin donc de lui et de son frère, et c'est à partir de là qu'il va prendre un peu son envol et faire deux romans par la suite, qu'il écrira complètement seul et en s'éloignant un tout petit peu de Jules.
Et puis alors que la mort approche pour Edmond, il songe à laisser sa trace dans l'histoire avec ce testament qui va constituer une société littéraire qui va décerner chaque année un prix destiné à aider les jeunes auteurs. C'est évidemment le prix Goncourt. On va pas raconter toutes les péripéties de cette académie. Toujours est-il que le 19 janvier 1903, le premier prix Goncourt est décerné. Vous savez à qui, Pierre Ménard ?
C'est John Antoine Nau, je crois.
Voilà, c'est ça, qui est aujourd'hui un illustre inconnu, alors que les Goncourt, eh bien, on s'en souvient. Merci beaucoup, Pierre Ménard, pour aller plus loin, on pourra se procurer votre Merci. Livre publié chez Talendier avec une préface de l'historien Michel Vinoc. Il est intitulé « Les infréquentables frères Goncourt ». C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Nasser Moussaoui. Demain, on continue notre cycle consacré aux frères Goncourt, alors que le prix qui porte leur nom aurait dû être remis jeudi prochain. Nous parlerons de leur journal, ce sera avec Jean-Louis Cabanès et Éléonore Reverzy.